Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Hobart, Christine Minetto et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Et c'est parti pour le show. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'eTeachers. Salut Seb, salut Jeff, comment ça va?
Ça va.
Très bien.
Attendez, j'ai un petit retour, je ne me suis pas...
Oui, c'est pas grave.
Très bien, salut Guillaume, salut Seb, c'est un plaisir d'être là tous les trois. On avait du mal à se donner rendez-vous, en tout cas à trois.
La malédiction des vacances.
C'est ça.
La vie est compliquée.
C'est vrai, nous sommes en vacances tous les trois en ce moment.
C'est la manie, oui, voilà, c'est magique les zones, voilà, c'est la twilight zone des vacances, on est ensemble, voilà. Seb, tu m'as l'air d'avoir pris un petit coup de froid, non?
Oui, c'est ce que je lui ai dit aussi, non? Il a un petit...
Alors non, je n'ai pas pris de petit coup de froid, mais alors ça doit être le micro qui fait ça, je ne sais pas, écoute...
T'as un nouveau micro, non? Ça te fait une voix, ma foi...
J'ai été conseillé par un pro du micro, donc ça va, voilà.
Really sway voice, that's quite interesting, you know?
Thank you.
Ne dis pas que c'est encore ce qui fait
non,
froid.
Non, il fait pas froid ici.
Non, ah, mais bon. En tout cas, c'est vraiment sympa. Bien, et eh ben écoute, toi, mon petit Jeff, un son aussi ça, pourri.
Météo.
Qu'est-ce qui se passe?
Comment ça, pourri, t'es vrai?
Non, mais c'est feutré.
Toujours?
Voilà, il a les mots.
Feutré, mais le son pas bon.
Non, mais écoute. Il n'est pas bon, il est feutré. Voilà.
Il est feutré, nous aurons l'occasion de...
Vous auriez pu le dire avant de démarrer.
En direct, oui, bien sûr. On aime bien raconter voilà. À nos auditeurs, on trouve ça très sympa. Hein, tout le monde est content.
Allez, on y va. Allez, en tout cas, c'est pas parce que c'est les vacances que c'est un programme allégé, hein, c'est un programme bien complet en tout cas. Allez, un petit sommaire, je vous fais un petit sommaire. On a quelques petites actus, dont une grosse actu aussi. Hein. Voilà, en outils, Seb et Guillaume vont vous présenter quelques petits outils. On a du truc et astuces ce soir, Seb et moi-même, on va vous présenter de petites choses. Dans notre partie innovation et expérimentation, notre ami Guillaume va être un peu polémique, ça j'aime ça, et Seb va nous parler aussi de... Alors il a mis ça dans Faisons simple, on va voir.
Ouais, c'est bien.
Voilà, et on finira par ce que l'on fait en ce moment, et bien sûr notre pour parler d'autre chose pour finir. On est parti, messieurs ?
Eh ben c'est parti.
Des petits retours, je crois que c'est Seb qui l'avait mentionné, ce petit retour. Tu vas peut-être en parler à ma place, Seb, parce que...
Mais avec plaisir. Le dernier numéro, vous pouvez retrouver son sommaire détaillé en fil sur le Twitter de notre émission. Et à ce fil, David Cohen, qui est l'esprit pensant derrière les petits fascicules dont on avait parlé dans plusieurs numéros avant, nous remercie pour la mention et nous donne une espèce de rendez-vous pour un petit échange. On espère que ça se fera, bien sûr.
Ouais, tout à fait.
Merci beaucoup.
Voilà, j'ai eu aussi un petit retour de la société que j'avais parlé de VR qui s'appelle Mimbus. Mimbus qui nous remercie aussi pour ce témoignage en tout cas. Voilà, merci à eux pour ce retour. On est parti, messieurs ?
Ben continue, de toute façon, je pense que c'est à toi de faire grosse présentation.
Allez, sur l'actu, on est partenaire, je pense, pour la troisième ou quatrième année, je ne sais plus, Guillaume.
Au moins troisième, ça c'est sûr.
Voilà, du CLIC 2019. Qu'est-ce que c'est le CLIC? C'est le plus grand congrès de référence dans la co-formation enseignante par les pairs. Alors qu'est-ce que c'était? C'est avec l'association Inversons la classe. C'est la quatrième édition du CLIC. C'est le plus grand congrès donc national de formation entre pairs, comme je l'ai dit, dans l'enseignement. Il y avait un appel à contribution qui a dû se finir en tout cas ces temps-ci. Le CLIC donc se déroule du 28 au 30 juin 2019 à Paris. C'est le congrès annuel est organisé par l'association, comme je disais, Inversons la classe, avec le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de grandes institutions telles que le Cercle FESR. Quelques informations, en tout cas, on peut parler sur les éditions précédentes qui a grossi hein, ce clip 2019. 1500 participants, en tout cas, sur les trois dernières éditions, 2015, 2016, 2018. 15 000 enseignants qui ont été accompagnés par l'association en 4 ans. En développant bien sûr de nouvelles pratiques pédagogiques. 1000 enseignants attendus pour cette édition 2019 pour l'instant. 119 ateliers qui sont prévus en 2019. Nous parlent bien sûr des retours très positifs en tout cas des participants. Puisqu'il y a toujours un petit sondage, ils disent que 95% en tout cas des enseignants qui ont été présents lors du CLIC. Qui déclarent avoir puisé des éléments pour faire évoluer leurs pratiques pédagogiques. Hein, c'est le but, en tout cas, de ce CLIC 2019. Et cette année, quelques grands noms, en tout cas, qui sont là, puisqu'on aura Cédric Villani, Franck Ramu et Marcel Lebrun, voilà, donc quelques grands noms, en tout cas. N'hésitez pas à aller sur leur site, vous tapez CLIC 2019, et vous allez tomber sur le site, en tout cas. Que dire de plus, en tout cas, on est partenaire, en tout cas, depuis ces 4 années, on relaie un petit peu l'information de ce clic, de ce qui s'y passe et de l'avant. Voilà. Guillaume, des choses à rajouter là-dessus?
Non, rien de spécial. T'as tout bien dit. On encourage vivement les gens qui sont intéressés à se déplacer pour cet événement qui est de qualité et qui prouve son intérêt général avec de plus en plus avec la venue de pointures, en tout cas de personnalités comme Cédric Villani, entre autres. Bon, on va pas débattre ici de qui il est ni de son action au sein du gouvernement, mais en tout cas, en tant qu'universitaire et scientifique, ça reste quand même une pointure, quoi qu'il arrive. Voilà.
Le ministère, en tout cas, soutient en tout cas ce congrès.
Tout à fait.
Donc, tu vois, ça a pris de l'ampleur. C'est bien.
Bravo. C'est bien que le ministère soutienne e-teachers bientôt alors.
C'est vrai, ce serait bien. Un petit appel du pied à monsieur.
On ne pourrait peut-être plus dire de conneries, ou je ne pourrais peut-être plus dire de conneries comme j'ai l'habitude de le faire. Donc ce
serait non, mais alors moi par exemple, la suite, je m'arrête tout de suite, tu vois. C'est avec la suite de ce que j'ai. Bon.
Moi, ça ne me dérangerait pas, messieurs. Vous savez très bien.
Ah, allez, c'est parti.
Allez, Seb, enchaîne.
Vas-y, allez, pour contrarier un peu la hiérarchie, on va dire, que je vais vous relater ici un très bon article de Lucien Marbeuf, qui est un collègue prof des écoles, et qui tient un blog qui s'appelle Institut Humeur, que j'encourage tout le monde à suivre, hein, même si vous n'êtes pas instit, ça permet d'un peu mieux comprendre ce qui se passe dans notre institution, et parfois même, ça me permet d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. L'article se nomme « Pourquoi les instits grondent-ils ?» Alors, pas leurs élèves, bien entendu, mais on parle bien d'un mouvement social, au-delà des stylos rouges dont on a déjà pu parler ou entendre parler. Alors, c'est très intéressant cet article parce qu'il fait un historique de comment on arrive à une situation où même les enseignants du primaire sortent dans la rue et manifestent davantage que leurs collègues du second degré. Il fait remonter ça à l'automne 2017. Hein, il reprend période par période, qu'est-ce qui s'est passé, hein, l'arrivée de notre ministre actuel, pourquoi ça s'est bien passé au début, pourquoi ça a commencé à se contrarier hein, quand on commence à toucher aux classes rurales, comment ça a continué à dériver et à commencer à cristalliser des tensions avec le problème des classes à 12, mais classe qui dit dédoublement de classe sans augmentation d'effectifs, augmentation de personnel forcément dit prendre à déshabiller Paul pour habiller Pierre, je ne sais plus l'expression, passerez l'expression, justement. Et donc, en fait, il vous reprend tout ça pour vous expliquer pourquoi la dernière manifestation de mars, il y a eu pas mal de monde dans la rue du premier degré, et notamment l'étincelle qui a tout allumé dernièrement avec la loi de l'école de la confiance qui, dans le panel de mesures un peu étranges qu'elle abritait, avait toujours cette idée de regrouper les écoles du primaire sous le collège, ce qui a légèrement dérangé les collègues, et moi-même d'ailleurs, parce que ce n'est pas exactement sur ce contexte-là que je me suis engagé dans cette profession. Donc, très bon papier. Franchement, je vous en ai fait un résumé très très maladroit, je le concède, mais qui est à aller lire sur son blog, dont on mettra l'adresse, bien sûr, dans les notes de l'émission.
Très bien, merci. En tout cas, c'est effectivement une réalité aujourd'hui que la fronde est présente quand même un peu de partout dans le monde enseignant. Mmh. Et tu as tout à fait raison sur le fait que le premier degré a toujours tendance à un peu moins bouger que le second, mais souvent pour des raisons fort logiques de difficulté en fait à laisser les élèves. C'est-à-dire que nous, dans des seconds degrés, c'est plus facile quelque part de faire grève parce qu'on sait qu'on a une vie scolaire derrière, qu'on a des gens qui pourraient aussi faire grève, mais qui souvent le font pas, et on le tient pas assez à le dire pour ces raisons-là, pour pouvoir quand même maintenir l'accueil des élèves et faire en sorte que le service soit assuré. Alors que dans le premier degré, bon, on sait bien que si tous les collègues se mettaient en grève, eh ben, que faire des enfants? C'est très compliqué. Des fois, les parents peuvent récupérer, pas tout le temps. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a quand même moins de, on va dire, souvent de manifestations visibles, en tout cas. Voilà.
Peut-être, peut-être. À voir.
À voir. Très bien. Bah, écoute, en tout cas,
voilà, on vient de perdre notre étiquette éducation, ministère de l'Éducation nationale. J'en suis né.
C'est pas grave. On passe bon, allez, on continue. Eh ben, on enchaîne avec les outils. Alors, c'est ça, Jeff. Ouais.
Bon.
On a perdu Jeff.
Ah ben ça alors.
On l'entend plus. Bon, c'est peut-être parce qu'il avait honte de son son pourri. Donc...
Non, il a coupé son micro, il revient.
Il a l'air de parler là, mais on n'entend plus rien.
Ah merde.
Ah ça y est, c'est bon. Ah c'est bon. Juste quand sur le... Ah merde, c'est magnifique.
Est-ce que le son est mieux déjà?
Donc, oui, bah, c'est mieux. Ça n'a rien à voir même.
Non, sérieusement.
Ah bah sérieusement, sérieusement.
Bah, non, mais j'ai trouvé, j'étais en 16 bits 8 kHz, j'étais pour les...
Ah ouais, d'accord, alors super, forcément. Bref.
Ça fait trois émissions que je fais comme ça. Allez, outils.
C'est parti. Eh ben, je vais commencer.
Oui.
Oui, je vais commencer. Décidément, ta voix, Seb, est vraiment...
Oui, troublante.
C'est souvent là, quand on s'entend beaucoup la première fois avec des micros de qualité, voilà, bon.
Mais c'est, à mon avis, c'est le passage sur le continent, tu sais.
Bien. Allez, on va aller dans les quadrilles parce que non seulement on va perdre l'étiquette éducation nationale, mais on va perdre tous les auditeurs. Alors... Ce soir, moi, je vais vous parler rapidement d'une petite application qui permet en fait d'apprendre, qui se dit un outil intéressant pour apprendre les langues vivantes avec Netflix. Alors, il faut savoir que depuis l'arrivée des services de streaming comme YouTube, bien évidemment, Netflix en plus, Amazon TV là et tout le reste, il existe un certain nombre d'outils qui vous promettent d'apprendre, en gros, de progresser facilement en langue étrangère. Finalement, sans rien faire. J'avais déjà eu l'occasion ici d'évoquer Flix TV, voilà, puis un autre outil. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu dans le même style. Mais pourquoi je le présente ce soir ? Parce qu'il y en a vraiment eu plein d'autres, en fait. Hein. Il y en a plein. Il y a également des petits add-ons qui peuvent s'installer maintenant sur Chrome ou dans d'autres navigateurs et qui proposent tous, en fait, la même chose, à savoir, finalement, de vous aider à comprendre les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre. C'est-à-dire que vous mettez le film, bien sûr, sur Netflix ou même sur YouTube, éventuellement, vous foutez les sous-titres dans la langue que vous souhaitez apprendre et le petit add-on là va vous permettre, par exemple, de cliquer sur un mot, ça fera le film se mettra en pause automatiquement et vous aurez la définition du mot ou la traduction comme vous voulez. Voilà, ça c'est un petit peu ce que tous les services proposent. Voilà, alors je vais pas rentrer dans un débat maintenant ici tout de suite de linguiste et d'enseignement de langue, mais pour moi, ça c'est absolument pas comment dire. C'est pas suffisant, bien évidemment. Ça peut être un plus pour des gens qui parleraient déjà un peu une langue ou qui commenceraient à mettre le doigt dans l'apprentissage, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle, nous, enseignants de langue, l'exposition à la langue. C'est quelque chose qui va être intéressant, mais en plus. C'est-à-dire que quand on lit un peu les sites, on vous fait croire que vous posez votre cul dans le canapé pendant 250 heures d'une série et vous ressortez bilingue. Bien évidemment, non, c'est pas ça du tout. Et on le sait bien, ça ne saurait suffire. C'est absolument pas suffisant. C'est intéressant, mais pas suffisant. Voilà. Pourquoi je vous parle de celui-ci là, c'est que il a un petit truc en plus que j'ai trouvé pas mal. Donc il s'appelle Lingvo, L-I-N-G-V-O, L-I-N-G-V-O-TV. Et en fait, pourquoi il est intéressant, tout simplement, c'est qu'il va vous proposer un peu le même système hein, que ça, sauf que là où les autres, vous êtes obligé de regarder, si vous voulez, devant votre ordinateur en ayant un add-on dans un navigateur. Là, vous pouvez vraiment regarder Netflix ou YouTube sur votre télé. Hein. Aujourd'hui, il y a énormément de systèmes qui le permettent. Bien sûr, on pense au Chromecast, on pense à l'Apple TV, on pense à toutes les box qui proposent la chaîne Netflix ou toutes les télé connectées. Enfin, je pense que maintenant, tout le monde fait ça.
Et en plus, vous allez installer l'application sur votre téléphone. C'est-à-dire que en même temps que vous allez regarder la télé et que vous allez avoir la série Netflix et le sous-titre qui apparaît, vous aurez en fait uniquement le sous-titre qui va apparaître en direct, en simultané, sur votre téléphone également. Ce qui fait que si jamais vraiment vous regardez et il y a une phrase, un mot que vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas obligé en fait d'arrêter le programme, ça va continuer et vous pouvez cliquer sur votre téléphone au moment où vous avez entendu ce mot et ça va vous donner un mot. Vous allez pouvoir l'enregistrer dans une bibliothèque de vocabulaire. Vous pourrez soit le traduire, soit avoir une définition unilingue. Vous voyez, mais vous n'allez pas vous arrêter parce que en fait, dans l'enseignement des langues, une des clés de l'apprentissage, c'est justement la fluidité. C'est-à-dire, en gros, c'est comme si demain, je vous filais un livre en anglais ou dans n'importe quelle langue et que à chaque fois qu'il y a un mot que vous ne compreniez pas, vous ouvriez le dictionnaire. C'est pas possible. Ça casse tout le rythme, ça casse toute la fluidité. C'est pas ça, l'exposition à la langue. Mais l'intérêt, justement, de ce truc, c'est de réconcilier les deux. C'est-à-dire, vous allez pouvoir regarder le film, regarder votre programme, et en même temps, sur votre téléphone, dès qu'il y a quelque chose qui vous pose problème, vous cliquez dessus, ça n'arrête pas le film sur la télé, mais vous pouvez quand même continuer à regarder la définition, le mot et l'enregistrer. Donc, on est encore dans un truc qui tourne autour de la traduction et autour de la définition, ce qui n'est pas génial, mais en tout cas, ça a le mérite de... Voilà, vous pouvez continuer à regarder votre programme, c'est un peu comme quand il vous manque une référence, vous allez regarder sur votre téléphone en même temps que vous regardez un truc à la télé. C'est un petit peu cette idée-là. Voilà, donc ça marche avec Netflix, Amazon, YouTube pour le moment.
YouTube.
Et franchement, je l'ai testé rapidement tout à l'heure pour avant d'en parler. Ça marche plutôt pas mal, c'est bien foutu sur le téléphone. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de latence entre la réalité de ce qu'ils disaient à la télé et l'arrivée du sous-titre sur le téléphone. Pas vraiment, pas du tout même. Donc voilà, ça a le mérite d'exister, c'est intéressant. Voilà, de toute façon, okay. Pour terminer, si on termine là-dessus, le meilleur moyen d'apprendre, c'est effectivement de bien sûr mettre les séries en langue étrangère, en version originale, et idéalement un peu plus tard avec des sous-titres, si vous le voulez, en version originale aussi, puisque ne regardez qu'en version étrangère avec des sous-titres dans votre langue maternelle, si vous êtes bon lecteur, ça ne va pas vous aider.
Je suis d'accord.
De toute façon, vous lisez les sous-titres très bien et votre oreille, à un moment, est tellement habituée à lire, enfin, votre oreille, à surtout se concentrer sur le texte et pas sur le son, que la liaison entre les deux ne se fait pas exactement. Donc vraiment, il faut se forcer à un moment, il n'y a pas trop le choix, de toute façon.
C'est pour ça que je progresse pas en anglais, quoi. Oh, merde.
Mais ouais, en fait, c'est ce que, genre, moi, j'ai des étudiants qui commence des cours comme ça en leur disant ne pensez pas que vous allez travailler votre anglais en disant tiens je vais regarder une série Netflix quoi.
En VO, ouais.
Ça n'est pas, c'est pas, ça ne fera pas de mal mais c'est pas suffisant. Voilà, d'accord. Lingvo en tout cas.
D'accord, enfin c'est pour utiliser dans notre cadre perso ça, parce que tu
oui, ouais. Là, c'est plutôt perso. Après, s'il y a des enseignants de langue qui écoutent, ça peut faire partie des ressources quand même à donner à des élèves en début d'année dans une cytographie pour
non, parce qu'on a eu le. J'ai eu le cas de quelqu'un qui avait demandé justement au point de vue législation d'utiliser Netflix en classe, etc. On était top dans les cordes, quoi. C'est pour ça.
Non, je pense qu'on n'est pas du tout dans les cordes. Même en tout cas, là, c'est vraiment pas quelque chose que moi j'utilise en classe. De toute façon, je quand je travaille à partir de films, je le fais dans le cadre légal, on va dire. Et en tout cas, non, c'est plutôt des ressources à donner. On a souvent des étudiants, des grands étudiants, des fois qui demandent comment s'améliorer. Ça peut faire partie des
okay.
Des ressources qui aident, quoi. Voilà.
Très bien.
Bon,
Seb, je crois que c'est à toi. Moi, ouais, c'est toi. J'ai pas mis d'outils ce soir. Hein,
vous avez vu. Ouais, voilà. J'en ai mis deux. Alors, le premier outil est un tout petit outil qui correspond à un article que j'ai été pioché chez Richard Byrne du site Practical EdTech. Pour ceux qui connaissent, c'était sur les services qui permettent de raccourcir les adresses URL. Alors, moi, j'en utilisais pendant un certain temps pour des différentes choses. Et là, en fait, comme il revient sur la mort de Goo.gl, le service de Google qui s'occupait de ça, il en propose. Alors, il nous en parle de 5, en gros, bon, c'est plutôt 3, on va dire. Hein. Dans ces 3 sites, il y en a quelques-uns qui sont. Il y a Tiny URL que je connaissais.
Voilà. Service.
Voilà, bit.ly.com aussi. Voilà. Celui que je ne connaissais pas, c'était Yelki. Voilà. Alors, Yelki, sa spécificité, c'est que c'est un raccourcisseur, mais temporaire. C'est-à-dire que ce que vous allez obtenir ne sera utilisable que 24 heures. Bon, pourquoi pas, ma foi. Il y a quelque chose, par exemple, qu'il a proposé qui me rappelait un service dont Guillaume avait parlé, ça s'appelle Fat URL, qui en fait, au lieu de, c'est pas, ça raccourcit pas sur une adresse, mais ça vous donne un groupe d'adresses Internet. Il me semble que tu avais parlé d'un site, d'un service comme ça.
Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais.
Bon, ben voilà. Donc, voilà. Et à la fin, bien sûr, qui dit raccourcisseur d'adresse, dit aussi QR code, parce que c'est pas mal. Alors, lui, il conseille QR Droid, ma foi. Je dois vous avouer que celui-là, je le connaissais pas. Moi, j'ai un petit service français qui me fonctionne bien aussi, mais voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient besoin de raccourcir des liens. Alors ensuite, on va changer complètement de domaine.
Je peux te couper, je peux en rajouter un petit français cocorico, non ?
Vas-y.
J'en profite. Moi, j'utilise très souvent le service de Framasoft, Frama.link, qui est très bien, qui fait la même chose, mais où on peut même donner le nom que l'on souhaite à l'URL, quoi.
Personnaliser l'URL, donc.
Voilà. Donc, je trouve ça assez intéressant. Voilà.
Alors, si tu veux un truc français aussi, tu as un équivalent sur le Meet CEF.
Oui.
Ou parmi la foule d'outils, de pratiques que tu peux trouver, tu as ce genre de truc. Et je crois même qu'il te permet d'avoir carrément des étiquettes avec les QR codes prêts à être imprimés.
Tout à fait. Très bon site.
Voilà.
Très bonne ressource, MeetCF. Voilà.
Alors, on va changer totalement d'univers avec la suite. La suite, c'est un... Alors, je n'ai pas d'autre mot pour le qualifier qu'un clone de Book Creator. Je suis sur Book Creator cette année, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans les émissions précédentes. Et l'autre fois, au détour d'un tweet, je suis tombé là-dessus. C'est un produit de chez Génération 5, qui est un éditeur français. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un clone de Book Creator, c'est-à-dire un créateur d'e-book, d'e-pub. Vous pouvez télécharger une version Lite, c'est une application pour iPad. Moi, je l'ai téléchargée. Là, la version Lite, vous pouvez créer qu'un seul livre et avec des limites. Vous avez des limitations du programme dedans, je vais vous en parler. Donc, plus simple que Book Creator, on va retrouver des choses, hein. On peut ajouter de l'image, on peut ajouter du texte, des annotations, c'est-à-dire des choses que vous allez faire, hein, des dessins que vous allez faire au doigt, vous pouvez coller des choses bien entendu, vous allez pouvoir agencer les pages comme vous voulez. Alors j'ai trouvé que le mode portrait, peut-être que c'est la limite du truc gratuit, de ce truc gratuit, mais bon, voilà. Par contre, vous allez me dire, alors quel intérêt d'avoir un Book Creator, mais avec moins d'options? Alors, surtout que ce programme-là donc est payant, il est autour de 8 euros, je crois.
Oui, j'ai bien vérifié, ouais. 7,99.
Hein. 7,99, donc voilà. Et par contre, il y a une option qui m'intéresse pas mal, c'est dans les options d'export. Donc, vous pouvez bien sûr générer un PDF, ça n'a rien d'exceptionnel, mais vous pouvez générer un PDF mini-livre, c'est-à-dire ce genre de petites choses qui, une fois pliées, à partir d'une feuille A4, vous donne un mini-livre. Alors, c'est peut-être pas un truc génial pour la plupart des gens, mais moi, je bosse pas mal avec ça, quoi. C'est, alors, un mini-livre, je vous explique, hein, rapidement, vous prenez une feuille, vous la pliez en 8, vous donnez un coup de ciseau, et en la pliant de façon correcte, vous obtenez un petit livre qui a 8 pages, en fait. Voilà. Et là, il a cette option-là qui me semble pas mal. Et du coup, j'ai essayé de bricoler des trucs, mais je n'y suis pas parvenu avec mes solutions habituelles. Ça m'embête quand même d'avoir de passer par là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait suivre parce qu'il y a des options encore à rajouter, notamment des trucs un peu tout bêtes parfois. Je retrouve pas. Je suis trop habitué à Book Creator, j'imagine. Mais voilà. Pour ceux qui veulent et qui veulent essayer, voilà, version gratuite, un nombre de pages limité. Vous pouvez pas générer le PDF en mini-livre parce que ce n'est que dans la version complète. Donc je suis assez limité, mais bon, je suis pas forcément très très envie de mettre tout de suite 8 euros là-dedans. Donc à voir, à suivre. Peut-être que ça va
être... Oui, à suivre. Ouais. Voilà. C'est un bon outil, je trouve.
Voilà, il est juste à son début, c'est une initiative française. Donc j'ai que du bonnes choses de ce côté-là. Mais voilà, il a encore du chemin à faire.
Et un avantage qu'il a, c'est qu'il est sur Android, tu vois.
Parce que il est sur Android, tu vois, j'ai pas eu la curiosité d'y aller.
Book Creator n'est plus sur Android, il n'y a qu'une version en ligne.
Oui, voilà. Et non, voilà, il n'y a que la version en ligne qui fonctionne sur Android et il faut passer par Chrome.
Ouais, et puis il faut avoir une connexion Internet. Donc,
tout à fait.
Donc là, je trouve plutôt intéressant. En tout cas, je viens de l'installer. Ouais.
Ah, ben voilà. Toi, tu es comme ça. Donc,
ouais. Bref.
Eh bien, on enchaîne avec les trucs et astuces alors.
Allez, c'est moi. Allez, oui. J'ai pas parlé. Je vais vous parler d'un outil qui m'est. On parle très souvent, en tout cas moi et Guillaume aussi, c'est Kahoot, K-H-O-O-T, qui est le service de quiz un peu ludifié, où on va mettre des questions en classe et les élèves vont pouvoir répondre avec n'importe quel appareil connecté en boîtier de vote. En fait, en gros, ils ont sorti une petite nouvelle option que je trouve assez pratique. Parce que c'est vrai que moi, je l'utilise très souvent en révision avant une évaluation, etc. Kahoot, pour revoir un petit peu quelques notions. Et pas mal d'élèves me disaient « Ouais, moi, j'aimerais bien l'utiliser à la maison pour s'entraîner, etc. » Alors, il existait le petit mode « challenge ». Mais qui n'était pas hyper pratique ce mode challenge qui permettait en tout cas de donner un code aux élèves pour pouvoir se connecter et refaire le jeu. Ils ont fait un mode practice où là, on a carrément, ils vont à leur rythme, il n'y a plus d'histoire de compétition. Enfin, s'il y a un petit peu de ludique qui est dedans aussi, on peut gagner des choses. Mais le mode practice, il est assez bien puisqu'en fait, on a directement le choix de réponse style QCM. Donc, ça permet que les élèves puissent jouer en dehors de la classe. Voilà, je trouve que c'est une bonne évolution. En tout cas, cet outil que moi, j'affectionne particulièrement. Le mode practice dans Kahoot. Voilà.
Pas mal.
C'est vraiment une super, une super mise à jour, hein, parce que comme tu dis, c'est très, très, très apprécié des élèves et c'est vraiment chouette. Voilà.
Ouais. Seb ?
Oui, pardon. Oui, alors un truc astuce un peu particulier parce que en fait, il se retrouve dans le truc astuce. Je ne savais vraiment pas où mettre ça. Vous savez, l'amour que j'ai pour les présentations PowerPoint à l'ancienne où la personne vous propose des diapositives les unes après les autres, et les lit. Ça endort tout le monde. Enfin, bon, je ne veux pas être vulgaire, mais bon, voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et,
ça existe que pour les élèves en collège, en sixième, c'est tout ça.
Non, on ne va pas mentir sur ce média, quand même, s'il te plaît. Non. Et donc, à l'adresse de tous ces gens qui pensent qu'ils font du bon travail, eh bien, j'ai trouvé, au hasard de mes pérégrinations sur Twitter, un cours sur améliorer l'impact de vos présentations. C'est un cours que vous allez trouver sur Open Classroom. Open Classroom, c'est un service français qui propose des cours en ligne. Alors, certains sont gratuits, certains sont payants. Là, c'est un cours gratuit, hein, que si je ne m'abuse, parce que je ne l'ai pas encore parcouru, pour tout vous dire. J'ai fouillé, mais je ne l'ai pas parcouru comme il faut. Open Classroom, pour ceux qui ont un peu connu le web d'avant, s'appelait le site du zéro à une époque. Et ça vous permettait de faire un site internet depuis rien du tout. En fait, si vous ne saviez rien, vous pouviez apprendre les notions pour avoir... Et donc, ils se sont développés, ils ont commencé à faire une plateforme de cours. Et là-dessus, les premiers mots de ce cours me parlent beaucoup, puisque la présentation vous dit « Vous êtes-vous déjà endormi devant une présentation PowerPoint ennuyeuse ?» En fait, c'est pour moi, une présentation PowerPoint rime avec ennuyeux, généralement. J'ai rarement trouvé des gens qui sont capables de faire une présentation où tu ne t'ennuies pas. Voilà. Hein, avez-vous du mal à rester attentif, blabla, voilà. Alors, en fait, c'est, je pense, je connais l'essentiel. Je connais les ficelles qu'elle va développer. C'est des trucs assez à l'anglaise, assez à l'américaine, on va dire. Savoir choisir des images, savoir choisir une phrase, pas plus, quelque chose qui accroche, une image qui accroche à rien, qui ne présente réellement votre propos, mais quelque chose qui va essayer d'accrocher et de mettre l'esprit de ceux qui vous écoutent en état d'attente pour savoir ce que vous allez leur dire. Pas en état de « Oh tiens, je vais lire pour savoir ce qu'il va nous dire, comme ça je fais une sieste de 5 minutes pendant qu'il me lit la feuille. » Voilà. Donc, le dernier point, par exemple, c'est présenter un projet à l'oral à l'aide d'un support en diaporama. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est ce que j'apprends à mes élèves à faire pour leurs exposés. Mes élèves sont du CE2 au CM2. Et ça, ils savent le faire. Alors, je ne vois pas pourquoi des grandes personnes que nous sommes ou qui nous forment au hasard ne pourraient pas le faire. Donc, j'encourage tout le monde à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Hein. Voilà. C'est, à mon sens...
Intéressant,
c'est...
hein.
Ah oui, non, c'est voilà, après tu as voilà, comment faire une bonne diapo, comment faire éviter...
Oui, sur les...
Alors,
Après, il y a des choses. Charte graphique. Non, c'est voilà. Intéressant.
Alors après, forcément, moi, il y a des trucs qui me bloquent un peu, du style, voilà, limite, il faudrait passer 3 heures sur chaque diapositive pour qu'elle soit
stable,
qu'elle soit
là. Forcément.
Voilà. Mais dans la partie 2, le premier point, c'est éviter la mort par PowerPoint. Moi, quelqu'un qui est capable de mettre ça dans un cours, je trouve ça fun. Voilà. Hein. Donc, à voir.
D'accord.
À voir,
forcément. D'accord. Je regardais. C'est Lorraine Castor qui propose ce cours.
Tout à fait. En fait, c'est parce que j'ai vu une discussion entre elle et une personne sur Twitter que je suivais. Et du coup, je me suis dit, ah, mais tout à fait.
D'accord. Là, en tout cas, c'est designer et teacher. Je ne sais pas trop ce que.
Bon, je ne sais pas non plus. Après, les ouais. titres en anglais un peu ronflants, ça me.
Non, pour savoir qui était derrière ce cours.
Voilà. Mmh. C'est en fait pour assister à énormément de cours et de conférences et c'est malheureusement quelque chose qu'on voit beaucoup ces derniers temps en fait parce que les présentations sont toutes les mêmes d'abord, se ressemblent beaucoup et les gens comprennent pas souvent que la présentation elle doit aider à la présentation orale et non pas la supplanter et c'est compliqué, c'est très très compliqué. Mmh. En même temps, c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que tes élèves de CE2 savent le faire parce que tu leur l'as enseigné. Et moi, je m'aperçois, donc, quand je fais faire des exposés à mes élèves, on travaille aussi là-dessus. Et en troisième, il y en a plus de la moitié, pour pas dire 80%, me disent, mais en fait, ils n'ont aucune idée, en fait. Personne à un moment leur a expliqué à quoi ça doit servir. Et quand on voit ça chez les professeurs d'université, ça en devient un peu gênant pour des gens aussi érudits qu'eux. Alors, bon, sur les élèves de troisième, on peut leur le pardonner, si je puis dire. Voilà.
Non, mais de toute façon, ils ont toujours l'excuse de ne pas l'avoir su maintenant chez des formateurs, et parfois des formateurs de formateurs. Pour moi, c'est totalement inexcusable. À un moment.
En tout cas, c'est ouais, sur des gens qui sont censés faire de la formation continue, c'est un peu à se poser des questions, mais souvent, ces gens-là ont l'impression que le fait de remplir leur slide, c'est ce qui montre en fait le contenu. C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours arrivé avec des contenus de cours. Moi, je me rappelle de profs à la fac qui arrivaient en nous donnant d'abord des polycopiés qui faisaient 300 pages et qui en fait les lisaient, quoi. Et voilà. Et ces gens-là, on les regardait, enfin, pas moi, mais d'autres personnes les regardaient comme des oh là là, mais te rends compte, ce prof, le génie, bah non, c'est pas un génie, c'est un contenu et qu'il écrive des bouquins dans ce cas, mais qu'il soit pas formateur, animateur. Et c'est parfait parce que ça me permet d'enchaîner avec avec un petit peu ce dont je voulais parler là sur tout ce qui concerne les innovations et l'expérimentation. C'est pas vraiment une innovation et une expérimentation, c'est plus un texte que j'ai trouvé sur un site que j'aime bien qui s'appelle Sidology, qui traite de différents dossiers. Et là, aujourd'hui, c'était aujourd'hui, ce que j'ai vu aujourd'hui, mais il date quand même de quelques temps, c'était justement sur les e-learning. Et tu parlais des titres ronflants en anglais, mais c'est exactement ça. Moi, je n'en peux plus d'être formateur dans le digital et prof d'anglais et d'entendre que des gens qui utilisent des termes en anglais en les massacrant d'un point de vue phonologique. Et ça, c'est l'horreur, mais ça, la limite, c'est pas grave. C'est mon problème de prof d'anglais. Mais ça, il n'y a pas que dans la formation, hein, dans toutes les entreprises, hein, le nombre d'anglicismes qui sont utilisés par jour, c'est une catastrophe. Mais ça, à la limite, tu peux y passer dessus. Mais surtout, c'est le côté ronflant des formations numériques modernes là où en fait, ça veut tout rien dire. C'est-à-dire que, On parle de e-learning, mais le e-learning, c'est quoi ? Je veux dire, si on s'arrête à se dire que le e-learning, c'est de la formation avec du numérique, on a tout faux, je veux dire, finalement. Hein, c'est, voilà, tout le monde. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde en fait, tout le monde en parle, tout le monde trouve ça super bien, mais globalement, quand on demande vraiment ce que ça veut dire le e-learning, on a un peu la réponse, et c'est ce que dit l'article, qu'en gros, c'est cool, un point, c'est tout. Et finalement, je suis assez d'accord avec ce truc-là, quoi. Il faut quand même redéfinir un petit peu les termes. Et le e-learning, c'est pas juste un quiz, quoi. C'est pas juste un QCM, parce que il y a un truc dans les années 90 qui s'appelait Hot Potatoes, que tout le monde disait d'ailleurs Hot Potato, bien sûr. Qui étaient des exercices finalement de quiz, de QCM, de matching, de liaison, d'exercices de liaison. Et on parlait pas à l'époque de e-learning, c'était juste des activités interactives. Et franchement, aujourd'hui, les trois quarts des outils ou des formations, on te dit en e-learning, en fait, c'est ça, c'est la même chose, sauf que c'est fait en HTML5, c'est un peu plus joli, un peu mieux développé, mais dans le fondement, dans les fondations, c'est pas forcément plus novateur. Donc, si c'est juste avoir des quiz, si c'est, je suis désolé, mais le e-learning, pour moi, je n'en peux plus. Vous savez ce que, de quoi j'en peux plus? J'en peux plus des capsules. J'en peux plus de ce terme de capsule. J'en peux plus d'entendre des gens qui disent, je vais vous faire une capsule vidéo. Très bien. Mais la capsule vidéo, c'est quoi? C'est pareil, c'est un cours, mais c'est pas de la formation, en fait. C'est du contenu descendant. Donc, en fait, j'ai l'impression que parfois, on revient du e-learning à des contenus descendants qu'on avait dans les années 80-90, sauf qu'on a des nouveaux médias qui nous permettent d'encapsuler ça. Ça y est, je l'ai dit, dans des nouvelles modalités bien jolies numériques, mais en profondeur, qu'est-ce qui a évolué? Rien. Donc, en fait, voilà, la vidéo du collègue en train de parler, la vidéo de quelqu'un en train de parler. Maintenant, avec les termes de ludification, ça y est, c'est parti. Donc, on a tout et n'importe quoi qui sont derrière tout ça aussi. Je suis pas en train de tout démonter et de dire que tout est mauvais. Hein. Je dis juste que, en fait, on met tout ça, on dit qu'on fait tout ça et c'est bien joli et tout le monde est content, sauf qu'au final, on ne peut pas encore mesurer concrètement les effets de tous ces trucs-là. Mais à mon avis, il y a un gros bins. Donc moi, l'idée que j'en avais et que je retrouve un peu dans cet article, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que la réponse, ou en tout cas ce qu'on appelle le e-learning, il est vraiment au croisement de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait certainement des collègues en train de faire des vidéos, mais il faut derrière qu'il y ait de l'activité, il faut qu'il y ait des retours, il faut qu'il y ait des échanges à distance, il faut qu'il y ait un certain nombre de process, de procédés qui font qu'on va être vraiment dans un parcours de formation et non pas dans un contenu descendant ou juste des clics à faire sur des trucs. Donc l'article, je m'associe vraiment avec Sidi, il faut vraiment d'abord de la ressource pédagogique, ça c'est une évidence. Donc là, peut-être qu'on aura la tête du collègue qui va raconter ce qu'il a à dire, mais en tout cas, de la ressource, de la lecture, de l'écoute, ça, on est bien d'accord. Des documents. Mais après, il faut qu'il y ait des activités qui soient liées à ces ressources. Il faut que tout ça soit combiné pour arriver à une vraie formation. Et en fait, au miracle, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que c'est quand même un petit peu ce qu'on fait dans nos cours bien avant qu'il y ait des outils numériques. Et c'est pour ça que finalement, et c'est là que ma démonstration est rigolote, le e-learning, il va bien le terme, parce qu'on est bien dans un apprentissage. Mais pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait tout ça et pas uniquement un de ces éléments. Et je crois que c'est vraiment important parce que comme vous, je regarde un peu, je vais sur Fun de temps en temps, je vais sur des parcours magistères à droite à gauche, mais je dirais pas les trois quarts du temps, mais un peu plus de la moitié de ce que je peux voir n'est pas de la formation. Ce sont des contenus numériques, comme des livres, si vous voulez, de la ressource, mais certainement pas de la formation. Donc voilà, un petit peu, si je devais refaire un café un jour, peut-être que je travaillerais là-dessus, ça me paraît être intéressant, mais j'ai l'impression que y a tout un peu un mythe autour de ça. Et de la même manière, vous irez voir sur le site, j'ai pas eu le temps d'en parler, il y a un autre article dans le même style qui traite carrément même de la formation tout court. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui formation, même plus formation numérique, c'est un peu la même idée. C'est quoi la formation? Qu'est-ce qu'on entend par formation? Et je pense que si ça a été remis dans la tête de beaucoup de formateurs, on aurait peut-être moins de gens qui reviendraient de formation en disant bah, c'était nul parce qu'on m'a mis autour d'un paperboard et on m'a demandé de réfléchir à ce que je devais faire.
Allez, donnez-moi des idées, donnez-moi des mots.
Voilà, donc, mais si tu veux, voilà, c'est un peu le même truc que je retrouve dans la formation numérique avec des gens qui arrivent parce que soi-disant ils ont des outils numériques et ça fait plus jeune, ça fait plus nickel, ça fait plus 2.0, mais je veux dire, il n'y a pas plus de substance, quoi. Il n'y a pas plus de fond, en fait. Et ça, je m'en aperçois de plus en plus, je suis sur plus en plus de formes de formateurs numériques et il y a de moins en moins d'idées, mais de plus en plus d'outils, quoi. Voilà, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, qu'on a des marteaux de plus en plus sophistiqués pour construire des trucs, mais qu'en fait, finalement, on construit rien, voire même moins bien qu'avant, parce qu'on a l'impression que ça va plus vite, c'est tout. Ou pour prendre une autre image, c'est qu'on a des Thermomix de plus en plus performants pour faire de meilleurs gâteaux, et on fait plus de gâteaux, mais ils sont moins bons que ceux que nos grands-mères faisaient. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut revenir à l'enseignement des années 70, ou bien évidemment, non, pas du tout, et... Mais attention à tout ce jargon, à tous ces outils qui derrière ne sont pas forcément bien tout le temps utilisés ou en tout cas qui déguisent un peu parfois un manque de réflexion pédagogique, tout simplement. Mmh. Voilà.
En fait, si je devais aller dans ton sens, en fait, on est juste resté bloqué au S dans SAMR. Le modèle, tu sais, où on fait substitution, amélioration.
Tout à fait.
On est resté bloqué au S. Ouais. On se dit, bah, le S, il est super beau, ça suffit. Bah, non, en fait, il y a tout le reste, il faut aller jusqu'à la révolution, parce que si on reste bloqué sur des vieux trucs, ça ne fonctionnera pas.
Je suis assez d'accord avec ça, en fait, et vraiment, je trouve que, en tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de parcours hybride, et en même temps, je comprends la limite, parce que la limite technique de distanciel qui fait qu'on ne peut pas encore aujourd'hui proposer, puisqu'on veut de l'asynchrone, on veut que les gens puissent faire ça, qu'ils puissent faire ça quand ils veulent sans être en ligne avec d'autres personnes. La plupart du temps, on peut comprendre pourquoi. On se retrouve forcément sur des contenus figés, style lecture de la ressource, donc vidéo, très bien, et après des activités un peu bateau. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne peut pas suffire. Il faut arrêter de faire croire que ça peut remplacer tout. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur aujourd'hui. Alors, de l'e-learning en hybride avec du présentiel et du distanciel, moi je suis à 300
pour. C'est ce que tu dis.
Maintenant, tout vouloir distanciel, ça me paraît vraiment compliqué. Il y a quand même besoin à un moment d'être avec les gens en direct pour travailler, quoi. Voilà.
La preuve du MOOC, hein, qui est perdu, qui... Vous m'entendez?
Oui, on t'entend, Jeff.
C'était la preuve du MOOC. Hein. Le MOOC, on disait que ça allait remplacer tout et tout. Et finalement, on voit bien que le MOOC, ça va la prendre quand même. Voilà.
Suite à un tweet de Maternum MD, j'ai pu voir la diversité des stockages académiques qui existent en France. Donc, c'est une initiative de sa part qu'elle a fait avec des contributions de son fil Twitter. Et c'est pas mal de voir sur la carte, ben, en fait, on a une grande, grande diversité de ces serveurs académiques, que ça va d'Académie à Camédia, que je connais pour l'utiliser, jusqu'à, je sais pas moi, à Rouen, ils ont MediaCAD, ou alors à Lyon, que connaît davantage Jeff avec PeerTube. Et en fait, on sait. Moi, j'étais un peu triste de voir qu'il n'y a pas une offre nationale et qu'on a plutôt des bricolages, ce n'est pas un terme péjoratif pour moi, mais des bricolages très localisés, en fait, pour monter des solutions adaptées à ce streaming.
Tout à fait. Ouais, et puis, je te parlais de PeerTube à Lyon, donc justement, tu parles de bricolage. T'es pas loin, parce qu'au départ, ça part vraiment d'un collègue qui lance l'idée, qui trouve un technicien au rectorat, et c'est parti comme ça, hein, si tu veux. Hein. Donc, c'est un peu ça. Donc, chacun teste dans son coin des services de streaming vidéo et de stockage, et c'est vrai qu'il est compliqué d'avoir un service national, en tout cas pour l'instant.
Voilà. Et donc, du coup, comme il n'y a pas de service national, pour moi, il ne peut pas y avoir une demande nationale que tout le monde soit au clair là-dessus. Ce n'est pas possible. On va avoir du bricolage à chaque fois. Mais bon, ça, c'est un grand débat.
Donc, et ce que je disais, c'est une demande forte, en tout cas, des enseignants, d'avoir où mettre les vidéos produites par les élèves ou produites par les enseignants, quoi. Voilà.
Mais on s'en doute, hein, quand même. Donc, toi, dans ce que tu faisais en ce moment, c'était du montage vidéo.
Oui, justement, il faut savoir où les mettre. Hein. C'est bon, ce montage vidéo, bah, ils seront sur le service académique qui s'appelle PeerTube, hein, justement. oui, je fais du montage vidéo. C'est une nouvelle mission, en tout cas, en tant que chargé de mission, en tout cas à la DAN de Lyon, où on doit faire un peu de valoriser un petit peu ce que font les enseignants. Et je suis allé filmer donc une séance en SVT, en collège, en classe de 5e. Avec un collègue qui utilisait la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée, hein, c'est ce principe de mettre des éléments virtuels sur le réel. En gros, là, il utilisait le t-shirt qui s'appelle le Virtual T-E-E, qui permet, en fait, une fois qu'on a mis ce t-shirt, on pointe la tablette devant le t-shirt avec l'appli justement Virtuality, et on va pouvoir voir l'intérieur du corps, on va pouvoir disséquer le corps. Alors, je vous rassure, c'est pas le vrai corps de l'élève qui a le t-shirt sur le dos, mais en tout cas, c'est une façon ludique de pouvoir disséquer, observer tout ça. Donc, je suis allé filmer ça, et il va falloir que je monte ça. C'est la première fois, en tout cas, que je fais ça, donc j'essaierai de vous faire un petit retour, je vous mettrai le lien quand mon petit montage sera fini. En tout cas, voilà, donc ça fait partie, je disais, de mes nouvelles missions, en tout cas de valoriser un petit peu le travail des enseignants. Voilà. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment pendant ces vacances-là?
Moi, je regarde la Suisse. Alors, je regarde la Suisse sur mon pays. Son fromage, ses coffres forts, sa nature. Et là, en ce moment, en Suisse, si vous regardez sur YouTube, vous pouvez tomber sur deux personnes qu'on connaît bien, puisque ce sont nos deux confrères de chez Nipédu, Fabien et Régis, qui sont là-bas à l'occasion de Ludovia CH et qui font toute une série d'entrevues avec les personnes qui présentent leur projet là-bas. Donc ça vous permet d'y être à moindre frais, on va dire, et de suivre un petit peu tous les projets qui ont pu être présentés. Alors vous, si vous êtes familier avec ça, ben vous reconnaîtrez certaines personnes, hein, comme François Jourde, qui était passé chez nous. Et sinon, ben c'est une petite pointe d'actualité. Alors toujours dans le ton de ce que savent faire les deux, façon un peu de leur tisane qu'ils avaient fait dans leur podcast, et avec leur bonne bouille, on va dire. Donc voilà, toujours très sympa. Et puis ils en ont produit quand même quelques-unes, donc à voir.
Un petit coucou en tout cas à Fabien et à Régis.
Tout à fait.
Allez, bon, on finira là-dessus. Hein, qu'est-ce que t'en penses ?
On va finir là-dessus, donc vous ne saurez pas ce que... pour parler d'autre chose. Hein. Ça
bon,
sera
on le gardera. Dans les notes de l'oubli. Moi, on essaiera de le relancer. Hein, qu'est-ce que t'en penses ?
Ouais. Bon, pour vous dire, c'était un gros débat entre nous trois, c'était beau. Voilà. Pour te retrouver, Jeff ?
Allez, déjà pour nous retrouver eTeachers, donc eTeachers, eTeachers.fr, toujours sur le site, vous retrouvez tous les podcasts. Vous nous retrouvez maintenant sur Spotify aussi, hein, vous pouvez nous chercher pour rien louper. Sinon, dans n'importe quelle application de podcast sur vos smartphones, vous pouvez vous abonner et recevoir tous les numéros, les écouter tranquillement pendant votre jogging ou pendant votre trajet en voiture, par exemple.
Celle, course, faites ce que vous voulez.
Voilà, ou dans le métro, voilà. Voilà, on est présent bien sûr sur Twitter avec eTeachersFR, sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des petits retours, en tout cas, c'est toujours sympa en tout cas d'avoir des retours. Et puis si on veut me retrouver moi personnellement, le plus simple c'est Twitter, c'est Jeff8342 et toi Seb.
Moi c'est Twitter aussi avec @stuteur, STUTEUR.
Voilà, et si vous voulez retrouver Guillaume qu'on a perdu, c'est Willow. _teach, voilà, sur Twitter. Bonne fin de vacances à vous, si vous êtes encore en vacances, ou si vous débutez les vacances, je crois que tu finis dans pas longtemps, toi, non ?
Ouais, oui, j'arrive sur la fin.
C'est ça, voilà. Et à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Ciao.